Léa Salamé, votre invitée ce matin est grand reporter au journal Le Monde. Elle publie Kaiser Karl aux éditions Albin Michel.
Bonjour à vous, Raphaël Baquet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. C'était un jour froid et gris du mois de février cette année. Une file de limousines arrive devant le crématorium du Mont-Valérien. En sortent Bernard Arnault, Caroline de Monaco ou encore Anna Wintour. On enterre ce matin-là, en toute discrétion, le dernier empereur de la mode mondiale. C'est ainsi que commence votre livre, Kaiser Karl. Karl Lagerfeld avait pourtant prévenu, il ne voulait ni enterrement, ni cérémonie, ni défilé devant le cercueil, et surtout pas de larmes, cette faute de goût.
Oui, il fallait voir ce moment, ce drôle de moment, hein, qui ressemblait à une sorte de fashion week funèbre, hein, avec ces mannequins qui trébuchent, ces chauffeurs en costume slim, et puis évidemment tous ces grands patrons de l'industrie du luxe. Et en même temps, c'était un enterrement raté, parce que Lagerfeld avait tellement interdit qu'on célèbre sa mort, si on peut dire, ou qu'en tout cas on lui rende hommage, qu'au fond, Chanel n'avait pas osé faire une véritable cérémonie, et ça ressemblait à la fois à une fête à laquelle on est invité par carton d'invitation, et en même temps à une sorte de moment glacé et laid qui ne lui ressemblait pas.
Pourquoi il ne voulait absolument pas d'enterrement, de cérémonie, de funérailles ?
Parce que la mort était son grand tabou. Il vivait dans une industrie qui célèbre la jeunesse éternelle. Et évidemment, il est le seul d'ailleurs à s'y être maintenu jusqu'à l'âge de 85 ans. Et il n'a cessé de repousser les limites de l'âge, de la vieillesse, de la maladie.
Et de la maladie, puisque le cancer, vous dites, personne n'osait en parler. Lui le cachait jusqu'au bout, il a usé de subterfuges. Personne n'avait le droit d'en parler.
Non, et il l'a vraiment très soigneusement caché. C'est-à-dire qu'il allait effectivement très discrètement à l'hôpital américain. Il avait observé la façon dont François Mitterrand, pendant 14 ans, avait tenu en respect son cancer et il a fait la même chose.
Tenu en respect son cancer. Ça fait 2 ans que vous enquêtez sur Karl Lagerfeld pour une série dans Le Monde et vous vous rendez compte que malgré sa notoriété immense, malgré son règne sans rival sur le milieu de la mode, eh bien, il n'y a aucune biographie de Karl Lagerfeld et pour cause, il empêche, il bloque tout projet et il menace. Alors comment vous avez travaillé? Qui vous a parlé? Qui a osé vous parler?
En fait, il y a eu 2 phases. La première phase de l'enquête où j'ai quand même reconstitué énormément de choses. Je suis allée de Hambourg à New York, c'est un homme effectivement mondial et donc il a fallu beaucoup enquêter. Puis la 2e phase, je dois dire, après sa mort.
C'est ça, c'est à ce moment-là que les gens ont osé parler.
Effectivement, des gens qui jusque-là n'avaient pas parlé ou avaient tenu un discours stéréotypé, là les langues se sont déliées et effectivement un autre Karl est apparu. Le Karl plus cruel, l'homme de pouvoir véritablement.
Tout a été dit sur Karl Lagerfeld, son génie pour sentir l'époque, pour faire de lui-même une marque mondiale, sa culture, son goût pour le XVIIe siècle. Et pourtant, il emporte avec lui des secrets, beaucoup de secrets et d'énigmes que vous tentez de percer. Première révélation du livre, son père. Son père dont il parlait très peu dans les interviews, préférant vanter les qualités de sa mère en permanence. Et pourtant, son père, Otto Lagerfeld, grand industriel de Hambourg, avait des choses à cacher.
Ce qui frappe d'abord, c'est que pendant les 30 premières années de sa gloire professionnelle, Lagerfeld ment sur 2 choses fondamentales, sa date de naissance et sa nationalité.
Il ne
cesse de dire qu'il est suédois ou qu'il a un père baron danois. Il dit tout sauf qu'il est allemand. Et évidemment, quand on plonge dans son passé à Hambourg, évidemment, on découvre Otto Lagerfeld, industriel, polyglotte, brillant, mais aussi qui est capable de faire des concessions avec le régime nazi pour pouvoir garder son entreprise. Et évidemment, cet aspect-là de son père, il a voulu absolument le cacher. Et la mère, sa mère réinventée, a été un merveilleux paravent pour éviter qu'on parle de ce passé-là.
Et vous en parlez dans le livre. Un autre homme a une place de choix dans votre biographie, c'est celui qui est présenté comme le seul grand amour de Karl Lagerfeld. Jacques de Bacher, un dandy décadent sorti d'un livre de Huysmans, qui fascinait le tout Paris des années 70. Une relation qui est pourtant platonique, écrivez-vous.
En tout cas, elle devient vite platonique. Jacques de Bacher, il faut voir, hein, c'est un oisif, un fils de bonne famille, la beauté du diable avec la tête de Garbeau, disait Lagerfeld. C'est aussi sa muse et son arme. Son arme pour découvrir le monde de la nuit, son arme face à Saint-Laurent. Ils vont avoir un amant en commun.
Voilà, Jacques de Bacher passera des bras de Lagerfeld à ceux de Saint-Laurent.
Cet amant en commun et Pierre Berger, le Pygmalion, l'amant aussi de d'Yves Saint-Laurent, était convaincu que Lagerfeld avait envoyé Jacques de Bacher vers Saint-Laurent pour le détruire et mettre à bas la maison Saint-Laurent, sa rivale.
Et jusqu'au bout, Pierre Berger et Karl Lagerfeld se sont détestés, ne se sont pas parlé. Ça alimentait les conversations du milieu de la mode. Jusqu'au bout, la détestation a été...
haine absolue que Lagerfeld a remportée, puisqu'il est mort 1 an et demi après son rival.
Oui. C'était effectivement une des questions, lequel mourrait en premier, ce qui n'est pas très chic, mais c'est comme ça. Et pourtant, Karl Lagerfeld disait souvent « je ne suis amoureux de personne, seulement de mon travail ». Et c'est vrai qu'il était obsessionnel du travail, il n'y avait que ça qu'il portait, qui le motivait. Pas d'alcool, pas de sexe, pas de drogue. Il était capable d'aimer les gens.
Ce qui frappe chez lui, c'est son extraordinaire discipline, en effet, sa capacité et sa générosité aussi. Une forme de générosité qui vous ligote, hein. Il couvrait de cadeaux ses collaborateurs.
Et les rédactrices de mode, c'est une raison de son succès.
Pour d'une certaine façon, les acheter, les maintenir dans sa dépendance. Mais aussi, il était capable... En fait, les femmes qui m'ont parlé de lui avec le plus de tendresse, ce sont les ouvrières des ateliers. Celles qui passent leur temps à genoux à terre, à piquer des épingles devant le grand maître. Et effectivement, il était capable, avec elles, d'entretenir une relation beaucoup plus étroite et sans doute plus libre que celle qu'il entretenait avec les grands de ce monde.
Il y a une autre femme qui vous parle de lui, et c'est une autre révélation du livre, c'est Inès de la Fressange. La rupture très violente de Karl Lagerfeld avec celle qui aura été sa grande muse des années 80, des années Chanel. L'explication officielle, c'était Karl n'a pas aimé voir Inès de la Fressange posée pour Marianne. Et pour la première fois, elle vous raconte ce qui s'est vraiment passé, en tout cas à ses yeux, à elle.
Oui, en fait, le problème n'est pas Marianne, c'est Luigi. C'est-à-dire que Inès de la Fressange, qui est la muse de Lagerfeld, qui a ce corps longiligne, pas de seins, pas de hanches, qui va si bien dans les tailleurs Chanel, à un moment, elle se détourne de son travail parce qu'elle est amoureuse. Et elle est amoureuse de Luigi D'Urso, un fils de famille, un Italien. Vous savez, ces Italiens qui pensent toujours que les Allemands sont quand même assez vulgaires. Et il est tout aussi cultivé que Lagerfeld. Et il n'est pas impressionné par lui. Et ça va être le début de leur mésentente et d'une haine incroyable, d'une violence insensée, quand on retrouve ce que Lagerfeld disait à ce moment-là d'Inès de la Fressange, et comment il a, au fond, il a rompu ce contrat. Elle avait un contrat mirifique avec Chanel, et ce qui montre à quel point l'industrie de la mode, qui pourtant embrasse des millions, peut céder devant le pouvoir d'un seul homme.
Une des raisons de sa puissance et de son règne sans partage, c'est aussi, vous le racontez, ses relations avec les grandes fortunes, avec Bernard Arnault, François Pinault, avec les patrons de Chanel également, les Wertheimer.
Oui, ce qui frappe chez Lagerfeld, c'est que c'est bien de plus qu'un homme de mode, hein. C'est vraiment un homme de pouvoir. Et il a noué des liens avec tous ceux qui font l'industrie du luxe, cette industrie si puissante mondialement. Effectivement, les Arnault, les Wertheimer, il a noué de fausses relations d'amitié, mais qui font qu'il a été, il avait des contrats à vie avec eux. C'est le seul dans son cas.
Et il est mort comme il l'a voulu, vous l'écrivez à la fin, célèbre mondialement, immensément riche et parfaitement seul. Kaiser Karl, chez Albin Michel. Merci Raphaël Baquet, belle journée à vous. J'ajoute qu'il y a des extraits du livre dans le journal Elle, paru cette semaine.
Merci.